I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de console et même de mobile aussi. On vous résume tout ce qui s'est passé d'important et d'intéressant dans le monde du gaming. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir J.K. Loret pour son retour après, on disait avant de commencer à enregistrer, ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé J.K.
Et ouais, ça fait des mois. Tu vis ce que j'ai pu vivre il y a quelques mois, enfin maintenant un an et demi. Donc voilà, je comprends aussi. Mais ouais, grave. Franchement, j'étais hyper content de revenir là. Même ce matin, je me suis levé, tu sais, bonne humeur et tout. Ah, trop bien et tout. C'est lundi certes, mais j'enregistre le rendez-vous avec Patrick, ça me fait super longtemps. Non, mais tu vois, ça me fait plaisir.
Non, mais ça me fait hyper plaisir de t'avoir aussi. J'ai l'impression de retrouver un vieil ami, tu vois, de l'école qu'on n'a pas vu depuis longtemps et tout.
C'est ça.
C'est très sympa. Et oui, effectivement, les joies de la paternité, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est marrant parce qu'on est dans un deux pièces et du coup, le bébé est souvent là à côté. Donc pour bosser, c'est pas facile quand on bosse de la maison.
C'est pas évident.
Bon, on déménage bientôt, donc.
Mais je comprends. Pour avoir fait du télétravail au début, quand ma femme était en congé maternité, je suis resté souvent à la maison, je travaillais à la maison. Et c'est vrai que on se rend compte qu'en fait, c'est compliqué, quoi.
C'est pas facile. Et puis parfois, tu vois, il y a des moments, le petit, elle l'a gardé pendant plusieurs heures, elle en peut plus, il pleure, machin. Donc tu dis bon, bah allez,
toi, tu l'as, bon,
c'est
allez,
pas grave. Je vais aller m'en occuper pendant un moment. Et du coup, tu bosses plus, quoi. Donc.
Du coup, voilà, c'est ça. Et donc, tu sais jamais quand tu vas pouvoir rebosser surtout.
C'est ça. Et donc, bon, t'arrives à faire les trucs qu'il faut faire tout de suite, mais les trucs sur le plus long terme, c'est moins facile. Mais bon, je tiens le rythme. Ça va. Pour le moment, ça se passe bien et on a des choses intéressantes dont on va vous parler, notamment le Nintendo Direct de la semaine dernière. On a un nouveau programme Microsoft, un programme télévisuel sur l'internet. C'est le Xbox Direct qui, à mon avis, témoigne d'un renouveau de la Xbox ou en tout cas dans son intention marketing, qui peut témoigner de quelque chose de plus profond. On a aussi des news sur Fortnite Battle Royale qui arrive sur le mobile et qui a des petites évolutions dans ce sens aussi, et puis toute une flopée de news et d'infos et de dates et de décalages et de tout ce genre de choses dont on va vous parler également. Mais pour commencer, la chose la plus importante à mon sens, possiblement, c'est le Nintendo Direct qui a eu lieu la semaine dernière et qui a annoncé tout un tas de petits trucs hyper intéressants et sur Smash Bros. Voilà, en gros c'est ça.
C'est
Smash Bros qui a été teasé et qui a fait s'enflammer les foules. Hein. Moi, c'est bizarre.
Oui,
c'est
oui.
Toujours bizarre pour moi Smash Bros parce que je fais pas partie de cette génération. C'est un petit peu comme Pokémon. Et du coup, oula, je sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs qui se passent sur ton micro de l'autre
côté. C'est bon là.
Ouais, c'est bon. Et je fais pas partie de la génération Smash Bros, donc je ressens pas cette ferveur, mais ça a embrasé l'internet, quoi.
Moi, je suis exactement comme toi. Enfin, je comprends l'engouement qu'il y a autour de Smash Bros. Je sais que c'est évidemment une grosse licence pour Nintendo, mais c'est une grosse licence, mais qui reste un truc quand même un peu de niche malgré tout. Tu vois, c'est pas Mario Kart, c'est pas un Mario classique. Mais en même temps, il y a une ferveur de fans. Il y a cette fameuse vidéo que t'as mis d'ailleurs dans les notes de la réaction des fans. Alors bon, c'est très à l'américaine, c'est très exagéré, etc. Sans doute, mais où les gens étaient dingues dans la salle parce qu'ils voient qu'ils annoncent un nouveau Smash Bros.
Et surtout que l'annonce était faite de manière très amusante, quoi. Il y avait ce trailer un petit peu bizarre dont on comprenait pas grand chose avec les personnages de Splatoon. Et puis à la fin, donc, la girl Inkling qui tourne les yeux et qui voit, tu vois, dans sa pupille se refléter le logo enflammé de Smash Bros.
Ouais,
c'était entièrement
parti,
fait. Ouais. Et effectivement, la vidéo dont on parle, c'est dans un magasin, quelqu'un qui filmait toute la salle qui s'était réunie clairement pour regarder le Nintendo Direct. Ouais. Et qui complete les losers their shit, tu vois.
C'est exactement ça. Ouais.
Et c'était.
Mais vraiment, tu sens qu'il peut y avoir des gifs. Enfin, je crois qu'il y a déjà eu des gifs de ce truc avec les mecs qui deviennent fous et tout. Bon, voilà. Après, moi, effectivement, ok, Smash Bros, c'est bien. Une grosse essence de Nintendo, c'était attendu. C'était pas. De toute façon, on était à peu près sûr que ce serait annoncé à ce Nintendo Direct là. On n'a pas été déçus ni surpris, quoi.
Bah, moi, je dirais, c'était sûr. J'étais pas tout à fait certain quand même. Smash Bros, c'est une grosse cartouche qu'ils auraient pu garder plus longtemps, parce que avec l'année qu'ils ont eu l'année dernière, ils auraient pu se dire bon, bah on fait une année 2018 sans énorme système seller, et puis on en garde pour 2019. Et surtout, c'est surtout ça en fait, c'est que 2018, non seulement il a annoncé, mais il sort normalement. Il est annoncé pour 2018.
Ça, à la limite, c'est la vraie surprise, c'est-à-dire sort cette année. Et en même temps, 2018, là, à part des jeux éditeurs tiers ou des jeux indés, etc., à quoi tu vas jouer comme gros jeu Nintendo sur Switch, tu vois? Ici, il y a Tropical Freeze, il y a quand même Mario Tennis, Tropical Freeze, là, ils sont des trucs comme ça, mais alors, après, par contre, si tu veux rester sur Smash Bros, est-ce qu'on a là eu la confirmation que c'était un nouvel épisode? Parce que ce que j'ai lu pas mal, c'est que rien n'est dit, c'est-à-dire ce sera peut-être une réédition. Tu sais, Nintendo, quand même, surtout avec la Switch, ils sont quand même habitués à rééditer des jeux, notamment Wii U. Est-ce qu'on a la confirmation que c'est un nouveau? Moi, j'en suis pas certain, tu vois.
Non, ils sont assez vagues sur le sujet.
Ils sont assez vagues, ouais.
Mais à vrai dire, tu sais, même si c'est la version, je sais plus laquelle c'était, la version Wii.
Bah, la version Wii U, ou la Super Smash Bros. Melee, Brawl.
Ouais, c'est ça, il y en a plus.
Ah, bah, je suis quasiment sûr que oui, il y a eu. Oui, il y a une version Wii U. Ouais.
Et il est tout à fait possible que ça soit un remaster, un portage en fait. Mais à mon sens, ça serait complètement suffisant pour enthousiasmer les foules. Ils n'ont pas besoin d'en faire un entièrement nouveau. Tu vois, ils font la dernière édition un petit peu modifiée ou même pas avec des nouveaux persos. Bon bah ça suffit quoi. C'est ce que les gens attendent et.
Bah, voilà. Comme ce qu'ils ont fait pour Mario Kart, quoi. Enfin, et du coup est un excellent, qui est devenu un jeu encore meilleur sur Switch. Bon, pourquoi pas, hein. Effectivement, c'est Super Smash Bros. For Wii U, tout simplement. Il s'appelle le dernier. Et, dans mon souvenir, il était très très bien. Il a été bien accueilli. Surtout, il a un roster de personnages. Enfin, là, c'est le fan service à son comble. Donc, évidemment, ça sera pareil sur Switch, quoi. Enfin,
oui, je pense aussi, oui. Ils ont pas besoin de faire un truc entièrement nouveau. On est d'accord. Et peut-être qu'ils en feront quand même. Mais, il y a aussi eu d'autres annonces. On va enchaîner parce que il y a quand même pas mal de matière. Il y a aussi eu d'autres annonces, notamment une extension solo pour Splatoon 2 qui continue à faire son petit bonhomme de chemin et c'est exactement typique des jeux Nintendo. Ils sont intéressants sur toute la durée de vie de la machine et Splatoon 2, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant presque un an et je le regarde du coin de l'œil en me disant bon peut-être que il faudrait que je m'y intéresse parce que peut-être que je pourrais l'acheter parce que de toute façon c'est le genre de jeu qui meurt jamais quoi, c'est un jeu Nintendo. Donc voilà. Il y a eu plein d'autres jeux, des jeux 3DS, je vous avoue qu'on va passer dessus, des trucs genre WarioWare.
Une réédition du premier Luigi Mansion, pourquoi pas.
C'est ça.
Qui est un jeu GameCube à la base, et Luigi Mansion 2 à l'époque était sorti exclusivement sur 3DS. C'était un très chouette jeu d'ailleurs, et le 1 du coup moi je l'ai pas fait, alors je sais pas si je vais ressortir ma 3DS juste pour ce jeu, mais
c'est ça, j'aurais préféré, la 3DS, coup, j'aurais, c'est un peu...
en fait, j'aurais préféré qu'il le sorte sur Switch en fait.
Ça arrivera.
Le remake de... Probablement.
Ça arrivera. Kirby Star Allies arrive dans quelques jours, il y a d'ailleurs une démo que vous pouvez essayer sur votre Switch si ça vous intéresse. On a mentionné Mario Tennis Aces qui sera livré en juin, qui a l'air d'être une version du jeu qui est beaucoup moins rachitique que la dernière version qu'on avait eue, qui était un petit peu décevante. Là, c'est vraiment, il y a plein de modes de jeu, il y a un mode histoire, etc. Quoi d'autre? Bon, Okami.
Ce qui m'a plus plu finalement, c'est encore une fois tous ces portages d'excellents jeux. Certes qu'on avait déjà eu ailleurs, mais qui encore une fois en mode portable, je trouve ont vraiment intérêt. Enfin pour le coup, bon, c'est évidemment pas une grande surprise, mais Undertale sur Switch, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont pas fait à l'époque et qui veulent se faire un Undertale en version portable. Mmh. À ma connaissance, il n'était pas dispo sur PS Vita, donc j'ai peut-être une bêtise, mais c'est peut-être la première fois qu'on a Undertale en version portable. Et puis Okami, moi à l'époque j'étais quand même un peu passé à côté, quoi.
Ouais, juste une note sur Undertale, ont aussi. C'est aussi possible grâce au portage de Game Maker Studio, qui est un outil de développement très prisé des développeurs indépendants. Ce qui veut dire qu'il va encore y avoir encore plus de jeux indés qui vont arriver sur Switch, puisque maintenant Game Maker Studio est compatible. Donc on a des trucs genre Hyper Light Drifter, Spelunky, tout ça, qui risquent d'arriver sur Switch aussi.
Et c'est une super nouvelle. Enfin, même si. Ok, on peut parler de recyclage, etc. Mais malgré tout, avoir des jeux comme de cette trempe, des jeux indés de cette trempe sur Switch, c'est un bonheur. Même si ça commence à devenir le Far West sur l'eShop, du coup, voilà quoi.
Je pense que this ship has sailed, tu vois, c'est ça y est, c'est déjà le port.
Ah ouais, complètement, ça fait longtemps, tu m'étonnes. Donc je confirme, il est sorti sur Vita, Dortel, je vais vérifier.
Ah d'accord, ok.
Oui, il existait déjà en version portable.
Bon, on a aussi d'autres trucs un petit peu plus surprenants. Enfin, le Dark Souls, il avait déjà été annoncé, mais on a des jeux comme Crash Bandicoot Insane Trilogy qui va arriver.
Ouais, c'est marrant ça.
Ça c'est un petit peu inattendu. South Park The Fractured But Whole,
pareil, surprise.
C'est surprise. Voilà. On a un petit peu, il y a Hyrule Warriors Definitive Edition. Enfin bon, c'est la version Wii U. Il y a une version Wii U améliorée. En gros, on est vraiment en train de vivre la deuxième année de la Switch, qui vient de fêter son premier anniversaire, où on a les développeurs qui ont tous, comme on l'avait bien sûr compris, qui sont tous en train de s'y mettre. On a des portages qui commencent à arriver, et puis je pense que dès l'année prochaine, on va avoir des jeux un petit peu plus originaux. Peut-être difficile d'avoir des portages toujours de PS4, Xbox One, mais on aura plus d'intérêt, disons authentique, vers la Switch, mais ça prend un petit peu de temps pour les développeurs de se réveiller et de s'y mettre, quoi.
Ouais, c'est ça, là ils se font la main avec des portages qui sont globalement de qualité, hein, tous les portages qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent, à quelques exceptions près, ils étaient intéressants et il valait le coup, en fait. Enfin, il valait le coup de redécouvrir souvent le jeu en version portable. Mm-hmm. Ça manque un peu de, oui, certes. Alors, ça manque pour le moment de, Nintendo a quand même quelques gros jeux là qui arrivent, mais il y a peu de surprises, hein. Moi j'attends quand même d'avoir plus d'infos sur Metroid Prime 4 par exemple,
hein. Oui, ça, sortie, avis,
cette année il sortira pas cette année je pense, mais ce serait bien qu'il communique vraiment dessus, parce que pour moi, enfin je sais pas si c'est ton avis, mais pour moi c'est l'un des plus gros jeux Nintendo, peut-être le plus gros jeu Nintendo à dehors d'un Zelda ou d'un Mario. Alors peut-être que c'est le fan qui parle, tu vois, mais
non, bah si, bien sûr, Metroid Prime 4 et pas Crime Patre, c'est bien sûr leur plus gros morceau, avec peut-être un Pokémon qui risque de voler la lumière et l'attention. Mais oui, là on n'y est pas encore. Mais oui, Metroid Prime 4 en plus, il est tellement attendu parce que ça fait longtemps. Donc
c'est ça.
Bon, moi je pense que ils ont quand même une année qui est déjà en l'état assez solide, même sans Metroid Prime 4. Donc
oui.
Bon. Une petite remarque quand même pour regarder du côté du mobile chez Nintendo. Une remarque sur les les revenus générés selon une estimation de Sensor Tower, une firme d'analyse, les revenus générés par les différents jeux qui sont sortis sur mobile pour Nintendo, enfin les différents, on va dire les deux gros, c'est-à-dire Super Mario Run et Fire Emblem, au moment de pour la première année de leur sortie. On savait que a priori Super Mario avait fait moins que Fire Emblem, mais la proportion est quand même impressionnante. Selon leurs estimations, Super Mario Run a généré 56 millions de dollars de revenus sur la première année, et Fire Emblem, qui rappelons-le n'est pas un jeu payant mais un free to play avec des achats de loot box, a généré 300 millions de dollars de revenus. Alors, petit bémol, ou pas bémol, mais petite remarque intéressante, 60% de ces revenus ont été générés uniquement au Japon, 30% aux États-Unis et 12% ailleurs. Donc ça reste quand même un jeu hyper japonais où ce principe de gacha, de lootbox finalement, est hyper hyper populaire et disons que les pratiques sont peut-être moins ont moins de fans en Occident. Donc c'est principalement au Japon, mais il n'empêche. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du développement de Nintendo sur mobile et le Mario Kart dont on avait entendu parler, enfin qui a été annoncé il y a peu? Je sais pas, mais clairement le modèle free-to-play sur mobile en tout cas a l'air de fonctionner beaucoup 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 mieux, surtout que Mario c'est la star, il a généré 6 fois moins que Fire Emblem qui est certes un gros jeu, mais enfin bon, voilà.
Ouais, c'est compliqué et enfin, c'est vrai que je me semble il y a quelques temps, même c'était à l'époque, Iwata était encore là et il avait un peu parlé de ça. Il disait que si Nintendo allait sur le mobile, ce serait pour du premium, des expériences équivalentes à de la console, etc. Autant dire que quelques années plus tard, on n'y est pas vraiment. Et en même temps, on peut pas leur en vouloir, c'est-à-dire qu'ils regardent les chiffres. Ça veut pas pour autant dire que Fire Emblem est un mauvais jeu, tu vois. Ça peut être un bon free-to-play. Et après, moi, je pense que l'erreur qu'ils ont fait aussi, c'était malgré tout de vouloir vendre un Mario, un jeu mobile Mario. 2 fois plus cher qu'un jeu mobile moyen, enfin au moins 2 fois plus cher. C'est que il faut rappeler qu'il était il était vendu 10€ quand même. Peut-être qu'il a baissé de prix depuis, mais
il y a eu une promo récemment à moitié prix, mais
voilà, mais temporaire. Non, et puis je pense que c'est ça qui les a un peu mis dedans. Je maintiens qu'ils auraient vendu ce Mario Run 5€, ils en auraient sans doute vendu 10 fois plus, quoi. Enfin, ou au moins 3 fois plus.
Ouais, c'est possible, effectivement, ouais. Et puis, il est sorti d'abord sur iOS exclusivement, et puis très beaucoup plus tard sur Android. La sauce était retombée, et puis il faut toujours être en ligne, mobile, faut toujours être connecté. Alors que franchement, sur Mario, ce jeu-là...
Ça, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer.
Donc bon. Mais on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'effectivement, il est difficile de tenir sur ces principes de expérience premium quand tu vois ce genre de chiffres, quoi. À un moment, faut se rendre à la réalité. Pour comparaison, Clash Royale a généré 1 milliard sur sa première année, 1 milliard de dollars.
La vache.
Et Pokémon un petit peu plus d'un milliard.
De toute façon, dans de nombreuses interviews récemment, notamment au moment des bilans financiers, etc., Nintendo disait toujours que voilà, le mobile c'est une partie de son business, mais ça reste toujours quelque chose de très secondaire pour eux, ils continuent à être focus sur le reste. Et c'est normal, et heureusement, parce que leur cœur de métier, c'est de faire des consoles dédiées des consoles et les jeux dédiés qui vont avec, que le mobile, c'est du beurre dans les épinards, quoi. On va dire ça comme ça, mais pas beaucoup plus, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de mobile, passons, maintenant qu'on a fait le tour de Nintendo, et on le rappelle, Super Smash Bros. Il faut dire Super Smash Bros 3 fois très vite pour l'invoquer.
Ouais, c'est ça. Super Smash Bros Switch, ça va être super dur à prononcer.
Super Smash Bros Switch, Super Smash Bros.
SSMBS, ça va être ça le
Ouais, exactement. Super Smash Bros Switch. Ah putain, mais c'est impossible.
C'est impossible.
Attends, Super Smash Bros. Super Smash Bros Switch. Super
Smash Bros. Dans les cours de théâtre, il va falloir.
Ouais, c'est ça. C'est pur. Bon, donc Super Smash Bros Switch. Il y a un autre jeu qui a fait une annonce surprise et là également du côté du mobile. C'est Fortnite qui a annoncé, Epic a annoncé il y a quelques jours que Fortnite Battle Royale, donc le mode à succès de Fortnite, on n'a pas besoin de refaire l'histoire, on connaît tous cette histoire, va arriver sur mobile, et sur iOS d'abord et puis sur Android cette année. Et ça sera une version qui sera pas une version genre adaptée, simplifiée, machin. Ça sera la version complète de Fortnite Battle Royale qui sera disponible entièrement sur mobile avec le même mode de jeu, les mêmes 100 joueurs, exactement, c'est un portage, c'est pas une adaptation. Et encore plus fort, il y a une compatibilité, une progression qui est partagée entre toutes les versions du jeu, donc sur console, on rappelle que Fortnite Battle Royale est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Mac. Et donc la progression sera partagée et le crossplay sera activé entre toutes les versions. Alors il y a eu une petite une petite communication un peu compliquée parce que on le sait, les versions des jeux PS4 et Xbox One ne sont pas crossplay, les joueurs ne peuvent pas jouer entre eux, mais là on va avoir le jeu qui est crossplay entre PC et Xbox One et PC et PS4 et PC et mobile. Alors est-ce que ça va vouloir dire que il peut pas y avoir des joueurs de Xbox One et de PS4 dans une même partie, mais il peut y avoir des joueurs de PS4, enfin bon. Tout ça, c'est hyper compliqué. C'est évidemment un problème qui est spécifiquement entre la Microsoft et Sony. On ne sait pas comment ça va marcher, mais il y aura une cross-compatibilité entre tout. Mais au-delà de ça, énorme annonce pour Epic, pour Fortnite. Comment ça va fonctionner sur mobile pour les contrôles est-ce qu'il faudra une manette? Absolument aucune
ouais,
idée.
Ça...
Mais c'est enfin j'ai vraiment l'impression, en plus de ça il y a des annonces avec des modes différents genre 20 contre 20 contre 20 contre 20 contre 20 sur Fortnite et ils font toujours des nouveaux modes, il y a des rapports selon lesquels les youtubeurs Fortnite sont en train de gagner des centaines de millions des centaines de milliers, c'est déjà pas mal d'abonnés par mois et PlayerUnknown's Battleground qui semble un petit peu en bon bien sûr ça va bien pour eux et puis surtout PUBG c'est un jeu payant alors que Fortnite est un jeu gratuit, mais on l'a vu en particulier sur mobile, ça peut rapporter plus quand c'est gratuit et que quand c'est payant. J'ai l'impression que la dynamique est un petit peu en train de se porter du côté de Fortnite au détriment de PUBG, non?
Écoute, excuse-moi.
T'es en train de déjeuner, on enregistre à midi donc.
Non, c'est bon. Écoute, effectivement, c'est un peu. PUBG reste toujours à je sais pas combien de 30 ou 40 millions de joueurs, enfin ça reste monstrueux. Mais le souci c'est que là ça stagne un peu. A priori la progression est plus aussi forte qu'avant, mais c'est à peu près normal puisque tout le monde y joue ou y a joué. PUBG en fait là ils ont annoncé qu'il y aura des nouvelles cartes etc. Mais en fait la Fortnite ils ont c'est drôle parce qu'il y a
oui je précise tu dis ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles cartes etc. Selon tout ce que j'ai entendu et je souscris à cette analyse, j'ai l'impression que c'est un petit peu PUBG Corp et Brandon Green qui se disent waouh il y a des trucs qui sont en train de se passer du côté de Fortnite, nous il faut qu'on bouge aussi et ils sont mis à communiquer à fond là en annonçant dans ce genre des trucs on va refaire ça, on va faire ça, on va ajouter des cartes, on va ajouter ceci, on va faire cela. Et alors que ça fait des mois qu'ils disent rien sur rien, j'ai l'impression que c'est une réaction, tu vois, même ça.
Ah, ouais, c'est un peu ça. Et en plus, c'est encore dingue parce qu'il y a, ne serait-ce que 6 mois, 1 an, Fortnite, c'était le truc un peu l'espèce de clone un peu nul. Enfin, pas un peu nul, mais c'était un petit peu
la blague, quoi.
Voilà. Et puis, il passait pour des gros opportunistes, etc. Et là, la tendance est un tout petit peu en train de s'inverser. Et c'est vrai qu'autour de moi, même dans des amis, etc., il y en a énormément qui jouent à Fortnite parce que déjà, c'est sur PS4. Donc, vous pouvez oublier que le parc, ça va être PS4, il est énorme. C'est gratuit. Et c'est pas un mauvais jeu. Enfin, pour le peu que j'y ai joué, il y a la différence, c'est que tu peux crafter, tu peux construire des bâtiments, etc. Donc ça change un petit peu la donne par rapport à PUBG. Et effectivement, ils ont finalement cette espèce de ouais d'élan en fait là où ils annoncent plein de trucs sur mobile. Bon. Déjà de base les contrôles de Fortnite sont quand même assez complexes, hein. Je sais pas si t'as déjà joué avec une manette, c'est faut passer un moment dans les menus etc. Alors sur mobile j'imagine mal comment y jouer à part avec une manette Bluetooth. Bon, enfin surtout qu'a priori ils ont annoncé que ce sera vraiment le même jeu parce que de toute façon il y aura du crossplay donc ce sera la même expérience, le même jeu, donc je suis un petit peu sceptique là-dessus quoi.
Ouais, je t'avoue que moi aussi, je sais pas du tout comment ça va fonctionner, mais pour cette histoire de dynamique, clairement, c'est pour ça que je parle de dynamique et pas de succès, parce que pour le moment, clairement, si on parle d'argent, par exemple, je pense qu'on reste du côté de PUBG pour établir le gagnant. Mais effectivement, la dynamique est en train de se porter du côté de Fortnite, certainement soutenue par la puissance de Epic, qui est quand même une boîte qui a l'habitude de vendre des jeux et de les promouvoir. Alors que, mine de rien, PUBG Corp, c'est une émanation de Bluehole qui, même s'ils ont l'habitude de faire des trucs, des sortes de MMORPG, voilà, en Corée, bah, ils ont pas une force de frappe aussi grande peut-être que Epic, qui est dans l'industrie depuis longtemps et qui a des ramifications et des tentacules partout, et puis une taille qui permet de soutenir un phénomène de cette ampleur. Mais oui, et puis là, le fait qu'ils soient sur PS4, j'ai un peu l'impression que Fortnite est en train, alors on va voir, ça peut s'inverser encore, est en train de voler la vedette à PUBG sur 2018, alors que 2017, clairement, c'était l'année de PUBG, quoi.
Mais exactement. Ouais. Et ouais, je crois quand même en termes de nombre de joueurs actifs, ils sont au coude à coude maintenant. Encore une fois, sur un jeu gratuit, sur un jeu qui dispose sur plus de plateformes, donc le rapport est pas tout à fait le même. Mais clairement. Après, moi d'une manière générale, je me pose la question aussi de la pérennité globale de ce type de jeu. Est-ce que dans un an, on ne sera pas passé à autre chose, parce que certes, ça reste extrêmement fun à jouer, mais il y a intérêt à avoir vraiment du renouveau régulier, parce que les joueurs vont pas jouer pendant un an sur la même carte. Alors certes, ils c'est ce qu'ils ont fait, ils ont sorti des nouvelles cartes, etc. J'en discutais avec des collègues ce matin. J'avais exactement cette réflexion avec des collègues ce matin qui jouent à PUBG, et j'ai un ami qui dit, non mais moi tu sais, j'ai joué à CS:GO pendant des années alors que c'est fondamentalement la même chose, quoi. Je faisais toujours la même carte, etc. PUBG c'est pareil pour le moment. Ils ont un corps, et surtout qu'ils jouent en escouade, donc ils ont encore cette espèce d'excitation et ils ont pas l'air de s'en lasser. Mais moi, j'ai des doutes sur la pérennité du truc, quand même.
Moi, je crois qu'il y a quand même... Alors, d'une part, oui, le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux jouer sur League of Legends ou tous les MOBA de la Terre, à part Heroes of the Storm, il n'y a qu'une seule carte. La variété peut venir d'ailleurs. Et puis, si tu as besoin de variété, comme le montre Fortnite d'ailleurs, tu peux tout à fait la générer. Ce type de jeu est une opportunité, les Battle Royale, c'est une opportunité sans fin pour différents modes, différentes variations, différentes petites gimmicks qui renouvellent l'intérêt. Enfin, tu vois, à mon avis, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment
Bah, c'est ça, ils ont intérêt à varier les modes et peut-être à proposer d'autres trucs, quoi.
Et c'est peut-être là que PUBG a un petit souci, parce que je sais pas s'ils ont la taille et l'ampleur pour avoir suffisamment de variété. Alors, le cœur des joueurs va toujours être intéressé par PUBG, et je pense qu'il y a des gens qui seront toujours là, quoi qu'il arrive, avec un cœur, de motivé. Mais pour avoir un public un petit peu plus large, il faut généralement, je pense, avoir une machine pour soutenir ça. Tu vois, des sociétés comme Blizzard ou comme Riot avec League of Legends, ils ont dû grossir très très vite pour pouvoir gérer le succès des jeux qui ont explosé de cette manière. Et j'ai l'impression que PUBG Corp, ils sont pas en train de grossir comme il faudrait. Alors, c'est encore très tôt, tu vois, ça fait qu'un an. Si on parle de League of Legends, le jeu est sorti plusieurs années avant de connaître de devenir le plus gros jeu de la Terre. Donc, peut-être qu'il y a encore l'opportunité pour PUBG Corp de faire des choses.
Ouais, mais justement, PUBG, le succès a explosé très rapidement. Ils ont eu une montée, ils ont explosé rapidement, et voilà, est-ce qu'ils sont pas déjà arrivés à leur point de saturation, enfin leur max de joueurs, ils sont à 40 millions de joueurs ou 50 millions de joueurs, tu vois, ça reste énorme, c'est sûr. Mais effectivement, Riot, League of Legends, ça fait peut-être pas 10 ans que c'est là, mais ça va bientôt faire 10 ans, je pense. Enfin, ça fait quand même paquet d'années.
C'est étonnant, mais je pense qu'il est sorti vers 2010, on va voir.
Voilà, c'est ça.
Mais et tu sais, il y a un autre élément qui, à mon avis, joue aussi, c'est que 2009, octobre 2009. Donc,
ça va faire 10 ans.
Tu te rends compte? Et il est vraiment devenu le plus gros jeu de l'histoire, je pense, vers 2012, quelque chose comme ça, 2013. Tu vois, c'est à ce moment qu'il a vraiment explosé, donc il a mis des années à s'installer. Mais pour en revenir à Fortnite, je pense qu'il a une force par rapport à PUBG. Il est beaucoup plus accessible, même graphiquement. Tu sais, PUBG, c'est un petit peu cette esthétique CS:GO. C'est genre, hardcore, machin. Bon, CS:GO est aussi un énorme e-sport, et encore aujourd'hui, il est énorme, donc ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir. Mais sur console, tu vois, moi, j'ai énormément... Tout ce que j'entends des gens autour de moi, c'est le jeu auquel jouent les adolescents aujourd'hui, c'est Fortnite. Tu vois, c'est gratuit, il est sur console. Tout le monde joue à Fortnite, genre 12, 13, 14 ans, c'est Fortnite. Donc, et je pense que c'est pas...
Et puis c'est un côté un peu plus rassurant peut-être pour les parents, parce que c'est un peu plus il y a moins ce côté peut-être violent, enfin même si c'est la raison qui se tire dessus, mais il y a moins ce côté très réaliste, en fait hyper réaliste, que tu peux avoir dans PUBG, quoi. Donc je peux comprendre, ils ont réussi à capter aussi un autre public.
Donc bon, voilà pour ce petit topo PUBG, Fortnite et donc ce changement de dynamique qu'on est en train de sentir. Une autre news quand même importante, c'est cette nouvelle émission mensuelle maintenant, le Microsoft Xbox Insider, qui va être une émission mensuelle sur l'actualité de la Xbox. Le premier épisode a été diffusé il y a quelques jours. Alors c'était Larry Herb, Major Nelson, la personne qui gère la communication avec la communauté depuis de nombreuses années sur Xbox. Il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça à un Nintendo Direct. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est un mode de communication direct de la part du constructeur, ce qui clairement a des similitudes avec Nintendo. Nintendo, ils font un truc qui est pas régulier et qui est un petit peu, qui sort du jour au lendemain et qui est dans un style également un petit peu. Ils le font quand ils ont des annonces. La différence avec Microsoft, là, c'est que ça va être mensuel et donc je sais pas très bien de quoi ils vont parler chaque mois. Ils vont parler de l'actualité. Bon, il y a forcément des trucs qui se passent plus ou moins. Ça a un style qui est également très différent du Nintendo Direct, où le Nintendo Direct, on s'en souvient, on s'en moquait un petit peu au tout début, et puis maintenant c'est devenu leur marque de fabrique très japonais. Le Xbox Insider, c'est beaucoup plus américain, c'est une sorte de show, quoi. Ça dure 2 heures, c'est même un petit peu long.
C'est long, hein, ouais. C'est un talk show, en fait, ouais, c'est comme un talk show, c'est une sorte de talk show.
Voilà, un petit peu. Pour moi, ça... Alors, ils ont parlé de Sea of Thieves beaucoup. Il y a l'annonce du retour de la première manette de la Xbox qui s'appelait
The Duke,
qui est bon.
J'ai fait la news ce matin, moi je trouve ça drôle, mais après c'est plus pour le côté rétro gaming collection. Et surtout qu'à la base, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est parti d'une grosse blague sur Twitter. C'est Simus Blackley qui est l'un des designers de la première Xbox, qui a retrouvé dans ses cartons cette manette, et pour rigoler en se moquant littéralement de la manette, il l'a mis dans les mains de son jeune fils et il a mis une photo en disant regardez cette manette, c'était pas possible. Et derrière, il y a des centaines de personnes qui ont répondu en disant ouais, mais moi j'adorais cette manette. Parce que ça allait bien avec mes mains, je trouvais que c'était hyper ergonomique et tout. Et au bout d'un moment, Microsoft s'est dit, si on la refaisait, a priori, pour le moment, c'est que des sinon marché américain. À mon avis, c'est la cible, hein, vraiment, les Américains qui ont eu la première manette. C'est rigolo, quoi.
Et du coup, il y a l'actualité aujourd'hui n'est pas hyper active chez Microsoft. D'ailleurs, entre parenthèses. Je note que Sea of Thieves, la bêta est disponible. C'est une bêta ouverte qui est maintenant disponible.
Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était que ce week-end. Et le jeu sort, dans une semaine, quoi.
Voilà. Ce qui, d'ailleurs, tout ce que j'entends sur le jeu, c'est qu'il est plus sympa que ce que les gens pensaient, mais qu'il s'inquiète pour la durée de vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est sympa pendant 2 heures, 3 heures, une soirée avec des potes, mais sur le long terme, ils sont un petit peu inquiets. Mais bon. Voilà.
Moi, j'avais fait quelques parties. Je pense que ça va être un bon jeu multi-apéro, quoi. Tu vas y jouer 2 heures avec des amis, et puis en termes de profondeur, de endgame, ce qu'on appelle, du endgame, longtemps, ça risque d'être un peu juste à voir sur le produit final, mais je pense pas que là-dessus, faudra pas s'attendre à un truc très très profond.
Ouais, je pense aussi, ouais. Mais du coup, au-delà de ça, moi, ce que je note chez Microsoft, c'est qu'il y a un petit peu un renouveau dans la communication et dans l'intention. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont en train enfin, clairement, ils ont réalisé qu'ils avaient fait des erreurs avec la Xbox One et qu'ils avaient laissé le truc un petit peu dormir. Et depuis quelques mois, là, il y a des choses qui se passent et ils sont en train de reprendre les choses en main. Et je pense que ça, c'est un des symptômes, si tu veux, de ce réveil de Microsoft. Et je pense qu'on risque de pouvoir attendre pendant cette année des choses, des annonces, du mouvement chez Microsoft et chez Xbox avec la direction de Phil Spencer. Je sais pas si toi, t'as cette même impression, mais... Il n'y a rien de concret, quoi, mais...
Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que Microsoft, avec la Xbox, j'ai l'impression qu'ils adaptent un peu au jour le jour leur com, leurs annonces. Tu vois, le Inside Xbox, c'est bien, mais t'as l'impression parce que c'est un truc qui a été décidé un peu dans les moments comme ça. Tu vois, il y a le fait qu'aujourd'hui, tous les jeux sont... Enfin, tous les jeux Microsoft, en tout cas, sont Windows 10 et Xbox exclusifs. Donc, ça montre aussi qu'ils font quand même un gros focus sur le PC au détriment peut-être de la Xbox. Il y a le Xbox Game Pass qui fait que, voilà, tu t'abonnes, t'as tous les jeux Microsoft en Day One, je crois.
Maintenant, oui, c'est ce qu'ils ont annoncé.
C'est quand même énorme. Enfin, c'est comme si sur PS4, tu t'abonnais et t'avais Uncharted et Bloodborne et God of War, gratos entre guillemets dès la sortie. Enfin, c'est quand même assez fou comme démarche, quoi. Mais cela dit, ça, c'est toutes ces choses-là font aussi qu'aujourd'hui, ça reste quand même une très bonne offre. Hein. La Xbox One coûte que dalle maintenant. Enfin, je parle pas de la One X, hein, mais même la One S, c'est un bon lecteur ultra HD en plus de Blu-ray ultra HD. Ils ont réussi. Ce qui leur manque, en fait, ça, malgré tout, c'est quand même une identité, quoi. Une vraie identité de joueur.
Surtout en Europe, où ils sont moins.
Surtout en Europe, voilà. Mmh. Surtout en Europe avec des licences fortes, quoi. On sait pas trop s'ils veulent séduire les joueurs qui ont envie de jouer sur PC mais qui ont pas envie d'acheter un PC ou c'est compliqué, c'est ouais, un peu compliqué.
Ça manque de focus.
Ça manque de focus, ça manque ça manque d'une vraie identité.
Mais bon, c'est pour avec ça Spencer, que je me dis, on verra. C'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte de ces problèmes et je pense que peut-être pas à l'E3, c'est un peu tôt encore, mais tu vois, cette année, je pense qu'il va se passer des trucs et que l'année prochaine, ça va commencer à, tu vas retrouver une certaine, justement, dynamique chez Microsoft. Et du coup, bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Je me demande ce qui va se passer du côté des autres constructeurs, parce que bon, Nintendo, ils sont tranquilles avec leur Switch. On va sans doute avoir des nouvelles d'une nouvelle. Je ne sais pas si on en avait parlé l'année dernière, au dernier épisode, mais une nouvelle version de la Switch peut-être à un moment. Qui a été décalé parce que même si Nintendo travaillait dessus, ils ont vu un tel succès avec la Switch telle qu'elle est, ils n'ont pas besoin d'une nouvelle version, ils en sortiront une pour redynamiser les ventes quand les ventes s'essouffleront, mais c'est pas tout de suite. Donc la Switch, c'est la Switch du côté de Nintendo. Je me demande si au moment où Microsoft va commencer à aller un petit peu mieux, Sony va pas annoncer à un moment une PlayStation 5. Encore que, ils n'ont pas intérêt à changer la dynamique qu'il y a aujourd'hui, parce que la PlayStation 4 marche de partout, mais si jamais Microsoft... Parce que si Sony annonce une PlayStation 5 en 2019-2020, pour une sortie un peu plus tard, Microsoft va pas ressortir une nouvelle Xbox 2 ans après avoir sorti la Xbox One X. Donc je sais pas dans quelle situation ils sont aujourd'hui, et je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des choses quand même et qu'on va entendre parler d'eux. Ouais. Tu vois, qu'ils vont sortir des jeux, quoi, enfin, vont en annoncer en 2018 ou fin de l'année. Quoi.
Oui, probablement. Mais est-ce que le problème, c'est que leur licence forte, historique, on va dire, ont quand même beaucoup perdu leur aura, que ce soit Halo, Gears of War, c'est plus que c'était comme avant, ne serait-ce qu'en termes de chiffre de vente, quoi. Mais avec un truc comme Inside Xbox, ou je sais plus quand, Inside Xbox. Xbox, je crois.
Oui, t'as raison.
Ils essayent effectivement de créer une émission pour se créer une identité et tu sens que ça va dans ce sens, quoi.
Bon, on verra en tout cas ce qui se passe avec eux. Plus de petites news et des dates. Alors d'abord, une communication un petit peu surprenante sur Far Cry 5. Décidément, je trouve que Ubisoft fait les choses très très bien ces derniers temps. Même s'il y a cette question de Ubisoft qui a fait marche arrière avec le propos controversé de Far Cry 5. À côté de ça, il y a quand même le Season Pass qui a l'air hyper fourni sur Far Cry 5 avec un chapitre zombie, un chapitre Vietnam, un chapitre on est sur Mars. Alors Far Cry, ils ont souvent eu des trucs un petit peu loufoques, on se souvient de Blood Dragon.
Ouais, de Blood Dragon, ouais, c'était trop bien ce truc.
C'est ça. Donc ouais, c'est dans la même veine, mais genre ils en font 3 fois plus. Le Season Pass vous inclut Far Cry 4. En plus, bon, faut vraiment avoir beaucoup de temps à perdre. Ouais, ouais, non, mais c'est fou. Et en plus de ça, il y a un mode arcade dans Far Cry 5 qui, là, pour le coup, si je ne m'abuse, est gratuit, fait pas partie du Season Pass, où on peut développer des modes de jeu et des cartes avec les assets de Far Cry, de Far Cry 4, de Assassin's Creed, Origins, je crois.
C'est ça.
Et donc ils vont eux proposer du contenu qu'ils vont quand même vérifier avant de le mettre en ligne, mais créé par les joueurs. Eux-mêmes, ils vont développer du contenu en plus. Enfin, Far Cry 5, ça a l'air d'être un truc au-delà du jeu lui-même qui est c'est genre le jeu lui-même. C'est, je pense, un jeu complet parce que Far Cry Ubisoft, il y a toujours eu des jeux complets, mais en plus de ça.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Là, il y a un jeu en plus ou plusieurs jeux en plus qui vient en plus du jeu de base, quoi. C'est pas ce que j'attendais de Far Cry 5. Faudra attendre les reviews, bien sûr. Il sort quoi là dans 2 semaines?
Dans le 27 mars, ouais.
C'est ça. Faudra attendre les reviews pour être sûr. Bah, enfin, ça a l'air d'être assez énorme qu'ils sont en train de faire avec ce jeu, quoi.
Ouais, ouais. Bah c'est quand même assez logique par rapport à toute leur politique qu'on appelle jeu game as a service, quoi, jeu en tant que service, où en gros ils vendent un produit de base et ils le font vivre, le service, ils le font vivre pendant des mois voire des années. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font avec Rainbow Six, c'est ce qu'ils font un peu avec For Honor, tout ça. Donc c'est pas étonnant qu'ils fassent la même chose avec Far Cry. J'espère juste que qu'on va pas perdre un peu le côté expérience solo, expérience assez dense en solo au détriment de quelque chose avec des DLC dans tous les sens, du multijoueur, etc. Bon, savoir moi j'y ai pas joué, enfin j'y ai joué vite fait à Paris Games Week, mais des collègues qui ont pu jouer un peu plus en solo, etc., ils ont un peu peur que, par exemple, qu'en termes de narration et tout, ce sera quand même assez léger, et que finalement, notamment la fameuse histoire de voilà, du derrière, c'est finalement très très secondaire, quoi.
Je pense que Far Cry, même les jeux d'avant, oui, la narration c'est une partie intéressante du jeu, mais l'essentiel c'est quand même cette immense open world où tu vas aller attaquer les forts et essayer de les récupérer, comment tu vas les récupérer, machin. Donc je suis pas hyper inquiet, encore une fois, à voir ce qui se passe là. Et tu notais Rainbow Six qui a été hyper soutenu. Figure-toi qu'il a eu là il y a une semaine le plus gros nombre de joueurs concurrents depuis son lancement. Donc c'est effectivement un témoignage hyper fort du soutien qu'apporte Ubisoft à ces jeux. C'est pas le seul exemple qu'on peut noter dans cette catégorie, mais certainement Rainbow Six Siege est l'exemple le plus éclatant. Et bon, donc à voir comment ça se passera au moment de la sortie de Far Cry 5, mais les annonces là, vraiment, il y en a tellement. Bon, ça se trouve, ça sera, tu vois, une carte qui dure 10 minutes sur chaque extension, donc ça sera pas intéressant.
Ouais, non, mais après, c'est une des plus grosses licences d'Ubisoft aujourd'hui, hein, Far Cry, donc voir derrière Assassin's Creed, c'est peut-être la plus grosse, enfin, tu vois, en termes de potentiel commercial, oui, etc., donc la chouchoute, c'est normal, quoi.
Des annonces, Detroit Become Human va sortir le 25 mai sur PS4, donc on aura la réponse de savoir si c'est un bon jeu.
Voilà. Ouais, je suis curieux et en même temps méfiant, voilà. Ouais. comme un peu tous les jeux de Quantic, quoi.
Ouais, moi je définirais ma curiosité comme, disons que je suis émoustillé, mais il y a un mais aussi. Comment dire, émoustillé, mais inquiet, comme toi, voilà. Émoustillé.
Ouais, c'est ça, ouais. On en reparlera peut-être au prochain rendez-vous jeu de juin, quoi.
C'est ça, exactement. Grosse surprise de la part d'Activision, quand même, un truc qu'on n'attendait pas vraiment chez cet éditeur qui a l'habitude
réguliers. Il y a des prises de risque.
C'est ça. Call of Duty Black Ops 4 confirmé. Ouais.
Black Ops 4i. Non, on s'est moqué un peu.
On s'est un petit peu moqué parce que, bon, 3 était en chiffre romain et 4, ils ont juste rajouté une barre. Donc, mais bon, je pense que c'est un petit peu, évidemment, c'est pas qu'ils se sont dit on sait pas compter en chiffre romain. Enfin, faut pas déconner. C'est juste un choix de design. Ils ont fait un logo comme ça, quoi.
Peut-être pour un petit trivia culturel, moi, j'ai commencé à me moquer aussi. Et j'ai un collègue qui m'a rapidement dit, non, mais en fait, figure-toi que les chiffres romains à l'origine, 4 était représenté avec 4 barres, en fait.
Ah oui.
Et dans les chiffres romains anciens, on va dire classiques, c'est le 4, ce n'est pas le i plus le v, c'est 4 barres. Donc voilà, on peut peut-être dire que Activision était suffisant. les gens de chez Acti et de chez Patriarche, mais je sais plus qui développe, sont suffisamment érudits pour savoir avoir su ça et que nous on passe pour des incultes.
C'est ça, exactement. Bon bah très bien, je savais pas, mais du coup maintenant je crois que c'est Treyarch. Les autres
ouais,
c'est Respawn.
Ouais, en général Black Ops c'est Treyarch.
C'est Treyarch, ouais, c'est ça. Mais oui, d'accord. Bah écoute, voilà. Donc raison de plus en fait, bon, Black Ops 4 revient aux origines, aux sources du classicisme romain.
Ouais, donc, après, oui, ça veut pas dire que ça se passe dans l'antiquité non plus, hein, mais
non, bah non,
c'est couillu ça par contre, un FPS. Non, mais c'est dommage parce que, enfin, peut-être 3 secondes. Moi, j'ai beaucoup vraiment bien aimé World War II. Et là, en fait, il revient à nouveau dans un. Alors, du peu qu'on en a vu dans le teaser, ça a l'air d'être à nouveau un contexte futuriste. Mmh. Et le contexte futuriste, c'est ce qui marchait plus dans les précédents Call of Duty. Donc, bon, à voir le jeu en lui-même, quoi, mais. J'aurais voulu un truc, parce que le premier Black Ops se passait dans les années 80, je crois, les années 60, pour la guerre froide. Et c'était un contexte hyper intéressant, donc j'aurais préféré qu'il revienne quelque chose comme ça, quoi.
Mmh. Bon, bah écoute, on en saura plus très bientôt, certainement. Un autre jeu dont on en saura plus très bientôt, quand je dis très bientôt, je parle de l'E3, qui n'est plus qu'à 3 mois, rends-toi compte. C'est The Division 2. Qui a été annoncé juste sans aucun contenu, sans matériel, sans trailer, sans rien. C'était juste lors d'une vidéo de communauté. Ils ont dit « Eh, au fait, on va faire The Division 2 ». Et c'était une annonce quand même un petit peu surprenante parce que, bon, pour plusieurs raisons. D'une part, l'annoncer comme ça, sans rien d'autre, sans aucun détail, c'est pas habituel. Et d'autre part, le fait de sortir un Division 2, c'était pas gagné. The Division 1 a quand même bien fonctionné, mais c'est le genre de jeu que tu gères sur la longueur. Et il est sorti il y a quoi? Ça fait pas 3 ans maintenant, The Division, quand même.
Mais non, 2 ans, je dirais.
2 ans, ouais, c'est ça.
Ouais, à peu près 2 ans, ouais.
Donc il n'était pas garanti que ça soit qu'il y ait un deuxième épisode. Mais voilà, bon, pourquoi pas, hein. C'est là encore un jeu qui a eu un lancement avec des fans, mais un petit peu chaotique. Et puis sur la longueur, il a été vraiment soutenu par l'équipe et par Ubi, donc il s'est beaucoup amélioré. Effectivement, ça fait 2 ans, c'était le 8 mars 2016.
Ben, tu vois.
Donc, oui, moi je me dis, c'est le genre de jeu où j'ai un petit peu peur vu ce qui s'est passé avec Destiny 2, mais c'est le genre de jeu où tu peux apprendre énormément sur le premier opus. Et puis appliquer tout ce que t'as appris pour en sortir un deuxième un petit peu perfectionné, tu vois.
Ouais, bah oui.
Donc,
c'est à mon avis, ce sera ça qui va. Enfin, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils vont faire ça, quoi. C'est un jeu qui a un vrai potentiel, The Division, qui avait plein de bonnes idées, mais qui manquait un peu de tenue sur la longueur. Ouais, de police et puis surtout tenu sur la longueur. A priori, quand le encore une fois, le endgame était pas vraiment à la hauteur. Là, je me dis qu'ils vont peut-être ils vont améliorer, j'espère, cette formule et voilà. Non, mais je suis assez content de voir revenir ce licence finalement, dont j'attendais pas grand-chose à l'époque et qui va plutôt bien plus finalement. Quoi.
Et c'est exactement le genre de jeu où il est hyper difficile, quand t'as pas eu des millions de ventes, enfin des dizaines de millions de ventes, c'est hyper difficile de continuer à grossir. Si tu fais des extensions sur extensions, bah tu vends toujours au marché du marché global, qui est les gens qui ont déjà le jeu. Alors que si tu fais le 2, bah évidemment, tu vas intéresser des gens qui n'ont pas acheté le 1 ou qui sont plus intéressés par le 1, quoi. Donc commercialement, c'est cohérent aussi.
Tout à fait.
Valve, tiens, ça fait longtemps. Ah non, pardon. Bah, Days Gone décalé à 2019.
Voilà.
bon, c'est.
Non mais oui.
Il risque de se prendre les pieds dans le tapis de The Last of Us 2 si The Last of Us sort en 2019. Il faut qu'il sorte en fait
ça, truc,
avant
ouais.
The Last of Us. S'il sort après, ça sera compliqué. S'il sort avant, genre plus de 6 mois avant.
Ou alors The Last of Us sort en novembre et. Days Gone sort au printemps prochain, au printemps 2019,
oh là là,
j'y crois peu. Mais...
Non, mais me fais pas, là tu fais mal au cœur. Non, mais le truc, c'est que déjà The Last of Us sortira pas en même temps que Red Dead Redemption 2, donc
c'est
mort.
Moi,
je pense fin 2019 pour The Last of Us 2, Days Gone début 2019, ça, tu vois, ça donne à manger
ça colle,
à ceux qui ont...
Ça fera un petit apéritif en
exactement.
attendant.
ceux qui sont qui ont faim de The Last of Us, ils se disent bon bah Days Gone pour me donner un petit apéritif. Si le jeu est pas trop mal en plus, ça peut donner une bonne comment dire, ça peut lui être bénéfique en fait même de sortir avant The Last of Us parce que certaines ouais. personnes vont peut-être l'essayer alors que ça aurait peut-être pas été le cas s'il sortait après. Donc ouais, ça pourrait être cohérent quoi. Autre grosse annonce, alors là encore un truc pour le coup vraiment qu'on n'attendait plus, Gabe Newell a annoncé que Valve allait faire des jeux.
Ouais, on dirait que t'as annoncé Half-Life 3, là, on va se calmer. Hein,
non, 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 pas... quand même. Mais attends, mais peut-être, là, hein. pourquoi pas, peut-être.
Ah, non, Patrick, bon. Enfin.
Non, non, faut pas déconner. Mais on sait qu'ils vont sortir très bientôt Artifact, donc c'est un jeu de cartes à la Hearthstone tiré de l'univers de Dota 2, qui ouais. est, bon, une idée plutôt logique, à la fois ouais, commercialement, ouais. et puis pourquoi pas, tu vois, il y a plein de gens qui ont découvert le type de jeu de cartes à collectionner qui pourraient être intéressés par Artifact, et puis peut-être que Valve, qui est quand même un des maîtres du game design, a des choses intéressantes à apporter à ce genre. Mais au-delà de ça, ils ont dit, ils ont annoncé officiellement, c'est le premier d'une série et on recommence maintenant à faire des jeux, on s'y remet. Ils ont du même coup admis qu'ils y étaient pas vraiment de tout leur cœur pendant ces quelques dernières années. Rappelons-le, le dernier jeu qu'ils avaient sorti, enfin, entre guillemets sorti, c'était Dota 2 en 2013. Ils avaient racheté une équipe, donc c'était pas tout à fait eux. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Mais
leur dernier jeu solo, purement solo, c'est quand même Portal 2, quoi. T'imagines, ça commence à dater, quoi.
C'est ça. Et du coup, bah là, voilà, ils ont dit, on s'y remet. Artifact est que le premier de plusieurs. Donc, l'espoir est permis. Moi, c'est vraiment l'une des sociétés qui manque. Valve dans l'univers du jeu vidéo, c'est vraiment, c'est tellement, enfin, évidemment, Steam est une opportunité qu'il faut pas négliger, mais c'est tellement dommage qu'il soit arrêté parce que tu sais quoi, même Portal 2 que j'ai beaucoup aimé, bon, c'était le travail de l'équipe de Portal agrémenté de la puissance de Valve, mais c'était, tu vois, ouais, c'était pas la même chose quoi, donc.
Ouais, mais le truc c'est que chez Valve, qu'est-ce qu'ils pourraient te faire à part un Half-Life 3, tu vois, le reste, ok, ce sera cool, mais ce sera jamais Half-Life 3.
Non, mais même moi, c'est même pas forcément Half-Life 3. Tu sais, moi, il y a les équipes de Team Fortress 2, les équipes de CS:GO, tu vois, qui continuent à développer leur jeu dans leur coin. Mais moi, je voudrais voir des trucs nouveaux que eux imaginent, quoi. Tu vois, Valve, pour moi, il y a quelques sociétés rares qui ont une place particulière dans mon cœur. Il y a Blizzard évidemment, mais Valve, c'est un petit peu en parallèle de Blizzard, une autre philosophie, mais qui a eu un génie dans le game design, et j'aimerais voir ce qu'ils font quoi. Et il y a quelques sociétés comme ça, il y a Valve, Nintendo et Blizzard, qui pour moi sont des sociétés hyper particulières, qui ont bien sûr une logique commerciale, mais une logique commerciale à part, qui ont un ADN propre, tu vois. Même d'autres sociétés que j'adore, comme je sais pas, Naughty Dog ou enfin le Santa Monica Studio ou Rockstar, tu vois, il y a plein de sociétés qui font des trucs que j'adore, mais c'est pas la même chose. Ils sont dans une logique grand public différente, hyper commerciale, c'est des first parties, c'est des machins. C'est pas la même chose que ces sociétés limite indépendantes, parce que mine de rien, même une société comme Blizzard a énormément d'indépendance au sein d'Activision Blizzard. Ils font suffisamment d'argent pour pouvoir dire, bah, on fait ce qu'on veut, et on vous emmerde. Et c'est pareil avec Nintendo, c'est pareil avec Valve. Et c'est tellement dommage que, de la même manière que, tu vois, Nintendo peut s'exprimer en plein avec un succès comme la Switch et après un truc un petit peu confidentiel comme la Wii U, c'était dommage que la Wii U soit un petit peu restreinte par son échec commercial. Là, je suis content de voir que Nintendo peut s'exprimer autant qu'ils peuvent avec la Switch. Et c'est un petit peu la même chose avec Valve, tu vois, je me dis c'est une société qui a plus à dire que juste Steam et même dans une certaine mesure que juste entre guillemets Dota 2 et
CS:GO.
Et pardon. Non mais au-delà de ça et Dota 2 et
Artifact.
Non, Portal 2, voilà. Et même Portal, que Portal 2, d'accord. Même si je l'adore, tu vois, ils ont d'autres choses à dire. Donc bon, ouais, ouais, je croise les doigts.
J'espère aussi. J'espère. Après, ça fait aussi. N'oublions pas le volet, enfin le pendant réalité virtuelle, ils ont toujours plusieurs projets autour de la réalité virtuelle. Donc on aura probablement des jeux, j'espère qu'on aura des vrais jeux solo développés par Valve compatibles VR. Moi à la limite pour des expériences solo, je les vois plus aller sur ce genre de d'expérience, enfin de jeu, donc de la VR. Alors peut-être un jeu qui sera ouais. plus sur la VR, mais qui a je pensais quand même pour la VR et malgré tout là où ils font de l'argent, ça va être malgré tout sur du multijoueur. Donc c'est pas pour rien qu'ils sortent Artifact, même si je sortir un trading card games en 2018 quand il y a le marché déjà saturé, j'ai du mal à comprendre la démarche derrière, mais bon.
Mais tu sais, le multi, moi, ça me gêne pas vraiment. C'est vrai que d'ailleurs, il y a le jeu de Gwent, là, comment ça s'appelle, Play Gwent,
Gwent Arena. Gwent, ouais,
qui lui aussi essaye de faire son trou. Enfin oui, mais bon, tu sais, Valve, c'est encore une fois, on peut jamais se dire qu'ils vont pas réussir à trouver un truc. Mais le multi, moi ça me dérange pas. Hein. Overwatch est encore le jeu auquel je joue le plus de toute ma vie.
Oui, non,
tu vois. D'ailleurs, j'ai réussi à passer platine.
Eh ben bravo,
bravo Patrick. tu vois le multi et je regarde l'Overwatch League pendant que le petit essaye de dormir. mais il y a pas de moi le multi ça me gêne pas forcément, tu vois. J'ai pas forcément, j'aimerais bien sûr voir Half-Life 3 évidemment. J'ai refait Half-Life 2 il y a deux ans et mais c'est une claque ce jeu, c'est fou quoi. Mais Bref. Valve va faire des jeux. On espère que il y aura des trucs de qualité.
Pareil, on y croit.
Diablo 3, je crois qu'on en parlait la dernière fois. Il y avait une sorte de petit teaser qui en fait n'était pas un teaser de Diablo 3 Switch. Visiblement, d'après Eurogamer, ce teaser qui n'était pas un teaser, qui a eu un démenti, qui n'était pas un démenti, c'était en fait, d'après moi, c'était une coïncidence, mais il n'est pas impossible que effectivement ils soient en train de développer Diablo 3 pour Switch et d'après les sources d'Eurogamer, ils étaient surpris de voir ce teaser partir sur Twitter parce que le jeu ne devait pas être annoncé avant plusieurs mois. Moi je me dis peut-être la Gamescom, tu vois, ça serait pas mal.
Ou la BlizzCon.
La BlizzCon c'est possible aussi, mais tu sais Diablo 3, il y a une histoire très proche avec la communauté européenne et Diablo 3 avait été annoncé à la WWE.
C'est vrai.
En Europe, enfin en France, à Paris. Donc je me dis, peut-être un Diablo 3 Switch pourrait être annoncé avec même une annonce du développement d'un Diablo 4 ou je ne sais pas.
Oh là là, ce n'est pas l'explosion mind-blown total. Ça
peut-être
serait fou.
Pas. Mais un portage Diablo 3, effectivement, sur Switch annoncé à la Gamescom, ça me paraîtrait possible.
Tu vois, ce qui manque sur Switch, c'est un bon hack and slash pour le coup. Un vrai bon hack and slash, il n'y en a pas, je crois. Enfin, je n'en ai pas vu de hack and slash sur Switch. Donc ça, ce serait bien, putain, ce serait super.
Ouais, bon, peut-être, un candidat, surtout qu'il a été porté sur console avec succès. Donc, je sais pas ce que ça donnerait graphiquement.
Ouais, franchement, c'est complètement jouable. Hein. Enfin, ils ont adapté la maniabilité au pad, elle est déjà là. Techniquement, je pense que la Switch est largement assez puissante pour accueillir Diablo 3. Un portage que propre de Diablo 3. Je vois pas ce qu'il. Et puis, en plus, je me dis que peut-être théorie du complot, peut-être que ils ont balancé ce teaser sans avoir Diablo 3 derrière, en disant peut-être que c'est un sondage, un test. On va voir comment réagissent les gens. Et s'ils réagissent bien, ok, on le développe, tu vois.
Bon, ouais, ça c'est un peu trop complotiste à mon sens. Moi, à mon avis, ce qui est plus probable, c'est qu'ils se disent bon, on veut développer sur Switch. Je sais qu'il y a des développeurs que je connais chez Blizzard qui sont méga, méga, méga fans de Nintendo, mais que tu t'as même pas idée. Et je me dis, ils développent Diablo 3 sur Switch comme entraînement pour ensuite développer d'autres jeux, tu vois. C'est genre projet pour se familiariser avec l'équipe de développement, etc.
Bien sûr, ils avaient dit, je crois même, il me semble qu'au moment de la sortie de la Switch, ils avaient quand même dit officiellement que c'était une console sur laquelle ils aimeraient développer des choses, quoi. Il y avait eu des rumeurs de Overwatch sur Switch, il me semble, des vagues rumeurs. Il y avait eu des rumeurs
un Pelé qui a dit dans son coin, ça serait bien Overwatch sur Switch. Enfin, elle est pas, enfin bon, bref. Mais
ce Pelé, c'était Mike Morey, mais non, je plaisante.
ils disent toujours ah oui c'est intéressant la Switch, on aimerait bien mais on n'a rien annoncé, ça veut tout et rien dire, mais bref. Et d'ailleurs même cette rumeur pourrait vouloir tout et rien dire, mais c'est un petit peu plus solide que juste le
là ça émane directement de chez Blizzard, même si effectivement j'ai du mal à croire
non,
complètement
chez Blizzard c'était la gif avec la petite lumière switchée on and off Diablo. Et ça, à mon sens, c'était une coïncidence. C'était une, ils avaient même pas pensé que les gens pourraient se dire, ah putain, j'allume le truc, donc ça veut dire Switch, donc Diablo sur Switch. Mais en parallèle, je pense que la coïncidence fait que effectivement, il est peut-être en développement.
Tiens, juste pour terminer, je suis en train de revoir. Et je me suis pas complètement trompé parce qu'il y a Jeff Kaplan qui a dit en 2000, il y a quasiment un an, qui a dit qu'il aimait beaucoup la Switch, que c'est sa deuxième machine favorite avec la 3DS. Non, bref, en gros, il dit que développer Overwatch sur Switch représenterait un sacré challenge pour nous, mais nous sommes toujours ouverts aux autres supports. Donc, il ferme pas complètement la porte au truc.
Non, mais
bien sûr, ça ne veut absolument pas dire qu'ils le feront.
Je te rappelle que j'ai vécu 5 ans dans le département PR de Blizzard, et je peux te dire que cette phrase, ça ne veut rien dire. Le jeu, c'est on ferme pas la porte, mais en même temps on dit que on a, enfin ça représenterait un sacré challenge, ça veut dire quand même c'est pas bien barré.
Ouais. Et, c'est clair.
Et on aimerait bien, et puis on voit, ça veut, c'est comme quand tu dis on n'a rien à annoncer pour le moment. Voilà, c'est que tu fermes pas la porte,
ouais,
mais qu'en même temps.
C'est vrai.
Enfin, bon, deux petits derniers chiffres pour conclure cet épisode. D'abord, 7,5 millions de copies distribuées pour Monster Hunter World. C'est du sell-in, donc c'est pas exactement dans les mains des joueurs, mais il n'empêche, c'est quand même pas loin. 7,5 millions, c'est le plus gros jeu de l'histoire de Capcom. Ce qui m'a un petit peu surpris d'ailleurs, parce que je me disais,
le plus gros Resident Evil, etc.
Ouais, sur la période de lancement, si tu comptes des jeux sur le plus long terme avec les remasters, etc. Tu peux trouver plus. Par exemple, Resident Evil 5 s'était vendu à 7,3 millions en 2009 d'après les sources Gamekult.
Combien 7,3.
7,3, et après tu peux ajouter la Gold Edition, la machin, et sur d'autres éditions qui font qu'il a dépassé les 10 millions. Mais sur la version telle qu'elle aujourd'hui, Monster Hunter World, c'est le plus gros jeu, plus que Street Fighter, plus que tout, c'est fou, hein.
Mais là, donc, c'est vrai qu'en plus on parle d'un jeu qui est sorti il y a 2 mois, quoi, maximum, même pas. Donc c'est vrai que c'est une très très belle performance, en plus sur une licence qui, alors certes, était connue avant, mais qui était toujours une sorte de une cible grosse niche, on va dire, tu vois, en dehors du Japon, bien sûr. Mm-hmm. Donc c'est incroyable, enfin en termes de performance c'est assez impressionnant, quoi.
Ouais, je pense que personne chez Capcom n'aurait osé espérer un tel succès, quoi.
Non, je pense qu'ils sont bien contents là. Ouais. Puis, c'est vérité, parce que c'est pas trop mon délire, mais de la vie de beaucoup de gens, c'est un excellent épisode. Et,
Ouais, moi j'ai pas eu le temps de m'y replonger, donc je suis resté à mes 20 heures de jeu et mon amour modéré. Mais c'est déjà beaucoup mieux que l'absence d'amour des épisodes précédents, quoi, pour moi.
Je croyais que t'allais reparler Nier Automata. Je me suis dit, tu vas quand te faire taper dessus.
Alors écoute, là c'est plus, non mais c'est bon, ça fait un an là. Non, je pourrais reparler de Céleste par exemple, tu vois, dire à quel point je l'aime encore.
Tu m'as fait peur.
dire que je n'aime pas Céleste.
Céleste, c'est le meilleur jeu de plateforme de ces 10 dernières années, je pense. Voilà.
Ah ouh, tu lui vends autant d'amour que moi.
Ouais, en termes de... Ah oui, j'ai adoré Céleste. C'est un jeu fantastique.
Mon petit JK.
On n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que vous faisiez Céleste pour moi.
Ah, mais moi, j'en ai parlé en long, large et en travers. J'adore ce jeu. Il est tellement beau, tellement tout, quoi.
Ouais.
Et dernier chiffre, justement, donc on a dit 7,5 millions de copies distribuées pour Monster Hunter World sur toutes les plateformes connues, enfin... PC et... Non, il n'est pas encore sorti sur PC, d'ailleurs. Il sera plus tard. Mais bon, Xbox et
oui,
PlayStation 4.
Ça qui est dingue, c'est qu'il n'est même pas sorti sur PC.
C'est ça. Eh ben, Horizon Zero Dawn s'est vendu à 7,6 millions en un an.
Ça, c'est bien.
Ce qui en fait, en fait, le jeu first party, donc exclusif, le plus vendu de l'histoire de la PlayStation 4.
De la PlayStation 4, oui, c'est possible, c'est très très bien aussi, parce que ça fait plaisir de voir que des nouvelles licences, des nouveaux univers peuvent connaître un aussi gros succès, quoi. Enfin, c'est un bon jeu dans un univers intéressant, et non, c'est super, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Et ça fait plaisir, d'autant plus, bon, d'une part, parce qu'effectivement, c'est pour une société, là, on parle de Guerrilla Games, qui a pris un risque en faisant quelque chose de différent. et qui a aussi pris un risque en mettant, enfin parce que maintenant on a presque pris l'habitude, mais en faisant un personnage féminin comme personnage principal, c'était pas gagné au départ, et il prouve effectivement le succès avec un excellent jeu, un excellent univers, enfin vraiment ça fait plaisir.
Un personnage féminin qui est pas sexualisé, qui est pas, enfin c'est ça, qui est, oui. Pas un bon personnage quoi, c'est tout pour.
Voilà. Exactement. Donc, et on se souvient que quand ils ont annoncé le jeu, ils disaient que au départ ils n'étaient pas sûrs pour des raisons marketing, parce qu'il y a ce mythe qui continuait que avoir un personnage principal féminin, bah ça nuisait aux ventes, etc. Bon, bref, là c'est clairement démenti comme mythe. Et puis surtout, bon, le jeu était excellent, et puis il s'est super bien vendu, et il est il a un succès qui est même là encore, comme pour Monster Hunter World pour Capcom, qui est au-delà des espérances, je pense, de Sony et de Guerrilla. Et puis on disait 7,5, c'est incroyable pour Capcom. Pour le coup, ils font sur la plateforme PlayStation 4 uniquement 7,6. Alors un an après la sortie, bien sûr, oui, mais tout de même. Donc c'est pour vous donner une mesure de l'ampleur du succès.
Ça inclut les chiffres de l'extension ou pas, a priori, on ne sait pas.
Ah non, je pense pas. Ça, c'est le. C'est le jeu de base qui s'est vendu à cette. Enfin, c'est ce que le communiqué de presse. Le communiqué de presse laisse entendre, quoi. C'est les global sales of Horizon Zero Dawn have exceeded 7.6 million copies just one year since its launch.
Et le pire, c'est que c'est bon, même si c'est bon, c'est pas la même machine, mais c'est un jeu qui a peut-être souffert un peu à l'époque. Je sais que c'est pour ça que j'ai lâché, que c'est que Zelda Breath of the Wild est arrivé juste après. Mm-hmm. Et j'ai lâché Horizon à cause de ça, mais du coup, c'est dommage parce que il faudrait que je m'y replonge, quoi.
Ouais, moi, je m'y suis remis, il y a quelques mois après, et je l'ai fini, et vraiment, ça vaut le coup, c'est, et donc, bon, on risque de voir un Horizon 2 down, ou 1 down, ou, je sais pas.
Horizon 2 0 down, ça va être bizarre, ouais.
Oui, oui, Horizon 0 down 2, non, bon.
Mmh. Ouais, bof.
On verra ça dans, oui, je pense qu'ils vont mettre deux petites années avant d'annoncer une suite, quoi.
Ça va s'appeler Horizon Death Gone, et puis et puis voilà, il y aura des zombies, et puis ils vont mélanger tout.
Ça sera plus simple. Ouais, plus simple. Donc voilà pour les news qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Je sais pas s'il y a d'autres choses dont tu veux parler, ou d'autres news,
écoute,
tu veux nous faire le topo Prestalis, machin, non?
Ah là là,
non, c'est pas forcément la peine. Des jeux auxquels t'as joué, Céleste?
Il y a ici, juste, je viens de voir que Canard PC vient de lancer sa campagne de sauvetage, malheureusement. Je sais pas si t'as suivi, mais, Canard PC a clairement dit qu'ils étaient sacrément dans la mouise, avec notamment à cause de l'histoire de distribution de presse et de la crise qu'il y a chez les distributeurs de presse. Vous pouvez aller sur le site de Canard PC, ils expliquent ça très bien. Et en gros, ils ont dit que s'ils récoltaient pas, enfin, si il faut y appeler au nom, parce que sinon ils vont mourir, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez sauver un magazine qui est là depuis quand même 15 ans maintenant, je crois, c'est peut-être le moment, parce que ce serait très dommage de. Et de toute façon, sous la presse spécialisée, enfin, si il y a des mecs que vous aimez, achetez-les, c'est le meilleur moyen de les aider, hein. Chez JV, c'est pareil, JV est moins, un tout petit peu moins impacté avec, parce qu'ils sont pas chez Prestalis en termes de distributeur, mais, c'est quand même très compliqué. Donc, si vous voulez, aider la presse, il n'y a rien de mieux que d'acheter des magazines, quoi.
Et si vous voulez les détails sur cette histoire de Prestalis, justement, ils expliquent sur le Ulule de Canard PC ce qui se passe et comment ça les affecte. Donc, c'est vraiment le bordel. Mais tu sais,
puis ils sont très transparents, ils expliquent tout.
On a un système tellement particulier pour la presse en France, la presse papier, je veux dire. À un moment, ça devait exploser, quoi. Et là, on y arrive.
On verra comment ça va finir, mais si un jour on peut repartir, au moins on peut repartir à zéro. Pour quelque chose, même s'il y aura des morts peut-être, malheureusement, mais il faut absolument que ce système change radicalement, parce que c'est ni fait ni à faire, quoi. Enfin, tous les amis que j'ai, j'en ai beaucoup, hein, qui bossent dans la presse écrite, c'est compliqué, même en termes de gestion, en termes de paperasse, en termes de tout, c'est un enfer.
Donc, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, vous pouvez aller explorer un petit peu la chose. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, le système de la presse et de la distribution de la presse en France était déjà particulier à l'époque où la presse marchait très fort, et particulier pas forcément dans le bon sens du terme. Et depuis, évidemment, l'émergence du web, les choses vont de pire en pire. Et moi, je suis même surpris que ça ait tenu jusqu'à maintenant. Et là, il y a une crise énorme avec l'un des deux distributeurs de presse.
Qui est le principal, en plus.
Qui est le principal, voilà. Et oui, et donc ça pourrait effectivement exploser. Il va y avoir des morts. J'espère que... Parce que tu vois, la presse va pas complètement disparaître. Il y a qu'encore des gens pour acheter la presse.
Non, mais ça
j'espère que, tu vois, c'est le nettoyage et qu'après, ça va mieux
se passer. Je pense que le système de distribution doit se réinventer, quoi. Enfin, doit changer. Je n'ai absolument pas la solution. Mais il faut que les choses changent là-dessus, quoi. Parce que c'est pas possible.
Bon, donc voilà.
Allez, on finit sur une note optimiste.
Oh, une note optimiste, donc... Bah tiens, quel jeu sympa t'as joué depuis le début de l'année, peut-être Céleste
Franchement, c'est un début d'année vraiment cette année, c'est franchement ça
vraiment
beaucoup,
quoi, t'as coupé. J'ai
vraiment très très bon. Enfin, ouais.
C'est ce que je disais il y a quelques épisodes. Je disais c'est sur le chapeau de roue, quoi.
Ouais, c'est la première. Bon, il y a eu évidemment les Monster Hunter World, Dragon Ball Z, etc., Dragon Fighter Z, auxquels j'ai peu joué, mais voilà. Mais moi, mes trois de mes meilleurs jeux de l'année sont déjà sortis. Céleste, j'en ai déjà parlé. Subnautica, qui est excellent, qui est vraiment excellent. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Oui, c'est
un jeu d'une sorte de survie, d'exploration sous-marine sur une planète extraterrestre. C'est difficile de vous en parler comme ça rapidement parce que en gros, le pitch de base, je le trouvais génial. Enfin, il est très très cool. C'est que vous êtes
mais
sur
c'est
un
VR
vaisseau
en
qui
plus, non
il est compatible VR, mais vous pouvez jouer tout à fait sans. Et donc vous êtes arrêté. Enfin, en fait, votre vaisseau s'écrase sur une planète alien extraterrestre qui est à 95% remplie d'eau, et vous devez survivre sur cette planète et comprendre, savoir comment vous allez pouvoir vous en sortir et éventuellement appeler des secours, etc. Donc vous démarrez sur un tout petit pod de survie et vous avez juste un masque et un tuba pour expirer un petit peu, et vous allez commencer à faire en sorte de survivre. Et derrière, plus le temps va passer, plus vous allez forcément être à l'aise dans cet environnement, parce qu'en fait vous explorer des fonds marins qui sont magnifiques en plus. Et en plus, il y a un super scénario derrière qui vous pousse à explorer, à découvrir des trucs très mystérieux, etc. Si vous aimez à la fois les jeux de survie, mais pas trop punitif, ça va, parce que la mort est pas fait pas que vous recommencez votre partie, donc c'est pas trop punitif. Et surtout, si vous aimez les fonds marins, si vous aimez la plongée, par exemple, c'est alors certes c'est pas réaliste parce que ça se passe sur une mer italienne, mais c'est formidable quoi. Et troisième jeu vraiment génial sur lequel je suis en train de tomber dedans, c'est Into the Breach. Pareil, c'est
très bonne presse, ce jeu.
Ouais, très bonne presse. C'est un 9 sur 10 chez Gamecult, ce qui est relativement rare. Même si cette année, il y a eu beaucoup de 9 sur 10 depuis le début de l'année chez GK.
Une preuve de la qualité de l'année encore.
Hein. Ouais, c'est fou. Ouais. Jeu tactique d'une limpidité incroyable. Enfin, c'est un jeu très facile à comprendre, mais c'est vraiment la définition du Master, quoi, parce que c'est vraiment très très limpide, les règles sont simples à comprendre, etc. Mais après, pour maîtriser bien toutes les petites règles, toutes les petites mécaniques, on découvre. Enfin, c'est formidable. C'est un jeu tactique au tour par tour. Donc, regarde Advance War et compagnie, tu vois, ce genre de truc, dans un univers type Kaiju versus Mecha, donc avec des types Pacific Rim, quoi. En gros, tu joues des robots qui doivent sauver la Terre d'une invasion d'aliens, et donc ça se passe, chaque niveau se passe sur un damier de 8 par 8 cases, donc c'est des toutes petites cartes, mais il se passe il y a une tension incroyable, parce que c'est un jeu où tu es constamment sous pression, en fait, parce que l'excellentité du jeu, c'est que d'habitude dans ce genre de jeu t'as pas une vision totale de ce qui va se passer. Là, en fait, le système de jeu fait en sorte que à chaque fois que c'est ton tour, tu sais exactement ce que vont faire les aliens et tu sais exactement comment tu dois réagir. Mais ça te met une pression incroyable, parce que tu sais que si tu fais pas le bon truc, tu sais que tu vas te prendre, tu vas perdre, ou tu vas perdre une unité, etc. C'est difficile d'expliquer comme ça, mais t'as une visibilité sur du plateau et du terrain de jeu qui est vraiment 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 dingue, et du coup ça te colle une pression parce que le jeu est difficile, c'est un roguelike, hein, donc plus tu perds une partie tu recommences du début, mais il y a des mécaniques qui font que c'est pas du tout répétitif. Voilà, c'est encore une fois, c'est un peu comme Céleste, quoi. C'est des jeux qui payent pas de mine visuellement, mais qui sont vendus entre 15 et 20 euros, qui sont des expériences dingues, quoi. Enfin,
et il est disponible sur Windows uniquement pour le moment, c'est les développeurs de Faster Than Light, de FTL. Ouais.
Voilà, c'est Faster Than Light.
Est-ce que c'est un jeu qui est accessible, qui peut être vraiment apprécié par des gens qui sont pas fans du genre? Parce que c'est quand même généralement les jeux de stratégie au tour par tour,
ouais.
c'est...
Je pense sincèrement que oui, parce que justement, déjà le jeu au début, il y a une mission d'apprentissage. Vraiment, je redis, hein, qui est vraiment limpide, quoi. C'est, on comprend tout de suite les mécaniques. On a l'impression que c'est très simple, en fait. Enfin, il n'y a pas ce côté. Ça, en fait, ça déborde pas de règles dans tous les sens. Il n'y a pas de gestion de base entre chaque mission, comme dans XCOM. Il n'y a pas de pourcentage de headshot en fonction de où tu tires, etc. Non, si tu touches pas, c'est point barre. Sauf que, c'est, en fait, c'est un jeu d'échecs, quoi. C'est-à-dire que tu faut réfléchir vraiment la position de tes unités à chaque fois. Mais il n'y a pas ce côté élitiste que tu peux avoir dans un jeu de stratégie tour par tour où tu dois assimiler des tonnes de trucs. Non, là en fait t'es seul avec ton cerveau et comme c'est du tour par tour t'as tout le temps de réfléchir et c'est non justement je pense que c'est une très bonne entrée en matière si vous vous intéressez peut-être un petit peu à ce genre de jeu et que vous voulez le lancer. Ouais, non, c'est au contraire, c'est une très bonne entrée en matière.
D'accord, bah écoute, clairement. Ça donne envie en tout cas.
J'ai un œil, ouais.
Merci bien pour ces petits
les trois bons jeux et il y a Vermintide 2 là qui vient de sortir, Warhammer Vermintide 2, qui j'ai
dont j'entends beaucoup de bien aussi
joué, ouais. mais j'ai envie de mettre très fort parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon Left 4 Dead like, on va dire. C'est un FPS coop où on joue dans l'univers de Warhammer, on se bat contre ces Skaven notamment, les Femmes de Ra, etc. Le 1 était très sympa et le 2 apparemment est encore meilleur. Donc.
Ça aussi ça me donne envie. Ouais. C'est malheureusement j'ai d'autres pas préoccupations mais
d'autres obligations.
Mais tout ça me donne bien envie. Il y a aussi Moss, le jeu en réalité virtuelle pour le coup sur PlayStation.
Exclusif PlayStation, ouais.
Ouais. Et j'ai mon PlayStation VR, il faudra que je le rebranche et que je trouve une heure pour l'essayer parce que j'en entends énormément de bien aussi. Et il y a plein de gens qui disent c'est un jeu qui donne envie de se lancer dans la réalité virtuelle carrément. Donc
ouais, c'est ce que je l'ai pas essayé encore, mais j'ai des collègues qui ont joué et qui ont adoré, quoi.
Bon, j'essaierai au moins d'en essayer deux ou trois avant le prochain pour pouvoir vous en dire quelques mots. Et ben voilà, merci beaucoup JK, on arrive à la fin de cet épisode. Ça m'a fait bien plaisir de te retrouver. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver aussi sur l'internet?
Ouais. Donc on est sur je suis sur lesnumériques.com pour des sujets un peu plus je fais du jeu vidéo maintenant mais tech, hardware, informatique, jeux vidéo. lesnumériques.com. ZQSD bien sûr, ZQSD on a enregistré après quelques temps, deux mois de pause, on a pas mal réfléchi à ce qu'on voulait faire, etc. On a enregistré un nouveau numéro vendredi dernier, qui j'espère sera en ligne rapidement, parce qu'en plus on a un nouveau système d'enregistrement qui nous permet de publier les émissions normalement beaucoup plus rapidement. Je fais un petit clin d'œil à Sylvain pour qu'il sorte l'émission rapidement. C'est une nouvelle émission assez chouette où on inaugure une sorte de nouvelle rubrique où on décortique un magazine d'il y a 20 ans. Par exemple, là, on a pris le joystick de mars 98 et on regardait ce qu'il y avait dedans et on commente, etc. Donc, c'était rigolo. C'était un exercice assez rigolo à faire. Et puis sur Twitter, c'est @JKLauret, JKLauret.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous y retrouverez... Vous y retrouverez aussi le rendez-vous tech qui est depuis ce mois-ci hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, le rendez-vous tech est disponible pour vos oreilles, pour suivre l'actualité tech d'encore plus près. Et si vous souhaitez soutenir cette émission, vous pouvez bien sûr aller laisser, par exemple, des commentaires sur le catalogue iTunes ou sur un catalogue que vous utilisez où vous pouvez laisser des commentaires sur Google Play ou quelque chose comme ça pour dire aux gens que l'émission est sympa et de l'écouter, ou alors simplement en parler à des amis dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Vous dites hey gars, tu sais quoi, les jeux vidéo, t'aimes ça, eh ben il faut que t'écoutes le rendez-vous jeu, ou alors un truc un petit peu mieux, pas exactement comme ce que je viens de dire. Ça serait hyper sympa et ça nous filerait un petit coup de main pour gagner encore plus d'oreilles qui écoutent l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous fais plein de grosses bisous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Salut!
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.